Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité en Ituri, les activités économiques sont paralysées dans plusieurs agglomérations du territoire de Mahagui. Une journée ville morte est observée pour dénoncer les tracasseries attribuées à certains policiers des circulations routières ainsi que la dégradation de la situation sécuritaire. Les détails dans cette édition. Autre temps fort de ce journal au Kasaï oriental, une campagne gratuite de réparation des fistules obstétricales débute en Mbujimayi. Une cinquantaine de femmes pourront bénéficier d'une prise en charge chirurgicale entièrement financée jusqu'à la fin du mois d'août. Et à suivre à la fin de cette édition, notre invité Alain Kateta, chef de bureau du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, à Kananga. Il revient sur la formation des 60 officiers de police judiciaire du Kasaï central, organisée dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise avec l'appui du PNUD. Voilà pour les principaux titres, les détails dans un instant. Christophe Makassing à la présentation, encore une fois, bienvenue dans ce journal. En Ituri, les activités économiques tournent au ralenti dans plusieurs agglomérations du territoire de Mahagui. À l'appel de la société civile, une journée ville morte est observée depuis mardi afin de dénoncer les tracasseries attribuées à certains agents de la police des circulations routières ainsi que la dégradation de la situation sécuritaire. Cette mobilisation intervient après des manifestations de jeunes dispersés par la police au cours desquelles un responsable de la jeunesse a été blessé. Isaac Raymond pour les détails.
La tension persiste dans les territoires de Mahagui. Des jeunes dénoncent les tracasseries qu'ils attribuent à certains agents de la police de circulation routière. Lundi, des manifestations ont éclaté à Ngoté et à Mahagui Centre. Les protestataires ont démantelé plusieurs barrières de contrôle avant d'être dispersés par la police à coups de tirs de sommation. Selon des sources locales, le président des jeunes de Ngoté a été blessé. En réaction, la société civile a décrété une opération ville morte. Depuis mardi, les marchés, boutiques et plusieurs autres activités sont paralysés. Elle exige la suppression des barrières jugées illégales et les renforcements de la sécurité. Le mouvement s'est étendu ce mercredi à d'autres centres commerciaux, notamment Ndrélé. Face à cette situation, l'administrateur du territoire a convoqué une réunion du comité local de sécurité afin de rechercher des solutions et d'apaiser les tensions. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Toujours sous les questions liées à la circulation routière, direction cette fois le Congo central. À Matadi, les agents de la police des circulations routières ont repris les contrôles de permis de conduire des motocyclistes après la période de courtoisie routière. Si les autorités rappellent que cette opération vise à renforcer la sécurité routière, plusieurs usagers dénoncent toutefois des abus et des irrégularités lors de contrôles. Le point avec Elise Kavira.
Dès le matin, au carrefour et sur les grandes artères de la ville, les agents de la circulation contrôlent les documents des motards. Si certains présentent facilement leur permis, d'autres qui ne sont pas en règle cherchent à éviter le contrôle et engagent des discussions avec les policiers.
Les PCR ont le droit de contrôler les permis, mais ça doit se faire dans le respect. Que le motard soit en ordre ou pas, il faut l'interpeller sans le brutaliser. C'est sur ce point-là qu'il y a souvent des tiraillements entre les roulages et nous les motards.
Mais tous les motards ne partagent pas ce point de vue. Claudie Moukeba, lui, estime que les tensions qui éclatent régulièrement entre les conducteurs des motos et les agents de la PCR, c'est souvent le comportement de certains motards qui en est à l'origine.
Si le roulage te demande le permis de conduire, montre-le lui directement et il te laissera partir.
Face aux plaintes et aux différentes réactions des motards, le sous-commissaire Mbuika Bongo regrette que certains conducteurs ne mesurent toujours pas l'importance de détenir un permis de conduire.
Jusqu'à présent, plusieurs motards n'ont pas leur permis de conduire. La loi relative au code de la route nous autorise à l'acheminer au bureau et il paiera une amende telle que la loi le recommande.
La police des circulations routières rappelle que le permis de conduire est une garantie de compétences et de responsabilité. Conduire sans permis, c'est mettre sa vie et celle des autres usagers en danger. Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Dans un autre registre, le gouvernement poursuit les réformes dans le secteur minier. À Kinshasa, les autorités congolaises accélèrent la mise en œuvre de la participation des Congolais au capital des entreprises minières. Le ministre de Finances a réuni le représentant du secteur afin d'harmoniser le point de vue sur le projet des décrets qui doit rendre cette mesure effective. Les détails avec Jocelyne Moussaou.
Les échanges ont porté sur une disposition du code minier qui prévoit qu'au moins 10% du capital des sociétés minières opérant en RDC soit détenu par des citoyens congolais. À l'issue de la rencontre, les parties prenantes se sont accordées sur la nécessité de signer le décret sous réserve de quelques ajustements techniques. Un comité ad hoc a été mis en place pour finaliser ces derniers points. Rappelons qu'en janvier dernier, le ministre des Mines, Louis Watoum, avait accordé aux entreprises minières jusqu'à la fin du mois de juillet pour se conformer à cette obligation de participation congolaise au capital. Cette réforme vise à renforcer la présence des investisseurs nationaux dans ces secteurs clés de l'économie congolaise.
Je l'ai dit au sommaire, au Kasaï-Oriental, une campagne de réparation gratuite de fistules obstétricales débute mercredi au centre hospitalier prébistérien de Mbujimayi dans la commune de Djibindi. Pendant plus d'un mois, une cinquantaine de femmes pourront bénéficier gratuitement d'une prise en charge chirurgicale grâce à un financement obtenu par la Fistula Clinique. Le docteur Jean-Pierre Lukoji invite les patientes concernées à se faire enregistrer afin de retrouver leur santé et leur dignité. Estelle Dalafina l'a joint par téléphone.
Les femmes nous viennent de partout, de Kabinda, de Tchofa, de Kananga, de Tchikapa. Et cette année, nous avons déjà fait la première campagne qui a pris fin au mois de mai. Alors, comme il restait encore beaucoup de cas, Fondation Vodacom a pris ça en charge pour réparer au moins 50 cas. Donc, la campagne va terminer à la fin du mois d'août. Alors, raison pour laquelle nous appelons les dames, que les dames viennent. Ceux qui sont encore en retard doivent venir pour être réparés. Et si c'est mode campagne, les avantages c'est que en mode campagne, il y a les kits de réinsertion, il y a aussi les kits nutrition, donc les malades sont pris en charge eux-mêmes par rapport à la nourriture, c'est le partenaire qui donne. Et à la fin de la campagne, il y a les kits de réinsertion qu'on donne aux malades réparés. Alors c'est différent avec le mode routine, mode campagne, il y a tout. Nous faisons appel à toutes les dames qui restent encore de venir en mode campagne.
Et en Ituri, les essais cliniques de nouveaux médicaments contre la maladie à virus Ebola se poursuivent dans le centre de traitement. Selon la coordination provinciale de la riposte, le recrutement des participants se poursuit conformément au protocole de recherche afin d'évaluer l'efficacité de ces traitements et de renforcer la prise en charge des patients. Jean-Pierre Akilimali, coordonnateur provincial de la riposte, est au micro d'Isaac Rémo.
Nous avons deux essais cliniques qui sont en cours. L'essai clinique partner qui veut montrer l'efficacité d'une molécule qui peut traiter efficacement la maladie. Mais aussi nous avons l'essai EboPep qui utilise des médicaments qui permettent de protéger les personnes qui ont été en contact avec le malade, donc le contact à haut risque, pour qu'ils ne développent pas la maladie. Et en ce faisant, nous réduisons l'incidence de la maladie parmi les contacts à haut risque. Les deux études respectent la méthodologie rigoureuse scientifique et donc il faut qu'ils attendent et que l'étude se place, continue à recruter les participants tels que c'est prévu et pour qu'on ait des résultats valides et que ces médicaments soient validés et soient utilisés ou même les prochaines épidémies. Il y a la taille de l'échantillon qui a été calculée pour chaque type d'étude et il faut voir le protocole spécifique de chaque étude. Comme vous le savez, quand nous faisons les recherches, chaque étude, on a un protocole et c'est ce protocole qu'on utilise.
Dans la province du Maniema, ce sont les conditions de vie des habitants qui suscitent des inquiétudes. À Kindu, les habitants du quartier Bloc Aéro, dans la commune de Kasuku, dénoncent le manque d'eau potable, l'insuffisance des structures sanitaires ainsi que l'absence d'école publique. Face à ces situations, les autorités locales appellent le gouvernement et ses partenaires à intervenir rapidement. Le reportage de Florence Kizalunga.
Les blocs aérobis comptent plus de 20 000 habitants. Ils éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux services sociaux de base. Dépourvus de l'eau potable, ces habitants sont obligés de parcourir entre 2 et 3 kilomètres afin d'atteindre une source d'eau aménagée, déclare Abedi Mutupeke Emmanuel, chef des blocs.
Ici chez nous, nous souffrons à cause des manques de l'eau potable. Nos mamans, nos femmes quittent d'ici pour aller à 2 ou 3 kilomètres pour trouver de l'eau potable. À cause de distance, certaines familles utilisent de l'eau de puits pour la consommation. Et ça crée aussi des maladies hydriques que les autorités regardent aussi de ce côté.
Effectuer chaque jour cette distance est un calvaire pour certaines femmes et jeunes filles de ces quartiers. Témoignage de Marie Ororo.
Trouver de l'eau potable ici, c'est un sérieux problème. On parcourt de longues distances et comme c'est trop loin, on se contacte de l'eau de puits.
L'infirmier titulaire d'un centre privé que nous avons contacté confirme l'existence l'existence des cas des maladies hydriques. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À la haie, la République démocratique du Congo a participé à une séance procédurale devant la Cour internationale de justice dans l'affaire qui l'oppose au Rwanda. Conduite par le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Guéphard, la délégation congolaise a échangé avec la Cour sur l'organisation de la procédure sans aborder le fond du litige. Jean Gandou nous en dit plus.
La République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi une nouvelle étape dans la procédure judiciaire qui les oppose devant la Cour internationale de justice à la haie aux Pays-Bas. Conduite par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Guéphard, la délégation congolaise a participé lundi 20 juillet à une réunion procédurale organisée au siège de la juridiction internationale. Selon le ministre Guillaume Guéphard, cette séance préliminaire s'est tenue sous les auspices du président de la Cour et en présence des membres du greffe. La RDC était notamment représenté par son agent auprès de la Cour, l'ambassadeur Christian Dongala, ainsi que par le co-agent Maître Yvon Mingachang. La délégation rwandaise, pour sa part, était conduite par le ministre de la Justice du Rwanda. Les échanges n'ont pas porté sur les fonds du différend entre les deux pays. Ils ont été exclusivement consacrés aux questions procédurales, notamment au calendrier de dépôt des mémoires et aux modalités pratiques du déroulement de l'instance. À l'issue de cette réunion, la Cour internationale de justice devra rendre une ordonnance fixant les prochaines étapes de la procédure. Kinshasa réaffirme pour sa part sa détermination à défendre ses droits devant la plus haute juridiction des Nations Unies chargée du règlement des différends entre États.
Pendant ces temps au Nord Kivu, la société civile dresse un tableau préoccupant de la situation sécuritaire. Dans une déclaration publiée en Mangina, elle dénonce la poursuite des massacres, enlèvements, pillages et recrutements forcés, attribués notamment aux ADF ainsi qu'à l'AFC-M23 dans plusieurs localités de la province. Elle appelle le gouvernement et la communauté internationale à renforcer les mécanismes de protection des populations civiles et à soutenir les initiatives de justice contre les auteurs des crimes commis en RDC. Écoutons un extrait lu par son coordinateur John Banyene.
Plusieurs entités ont été la cible des attaques ADF dans les villes de Beni et Oicha. Territoire de Beni, notamment à Mangina, Mbau et Aier, avec comme conséquence les massacres à répétition des populations civiles innocentes. Des incendies de maisons, motos, auxquels s'ajoutent des enlèvements d'autres compatriotes dont on ne sait leur sort. Pendant ce temps, la partie sud de la province, le M23, continue à se renforcer en déployant de militaires et à terminer la formation à Tchanzu. Des militaires RDF avec la logistique conséquente dans la zone qu'ils contrôlent prouva son habituel plan de poursuivre la guerre dans les différents axes malgré tous les engagements pris. Par ailleurs, le même M23 continue à massacrer, torturer, violer, piller des ressources naturelles, des biens des populations, occupation illégale des habitations, échange, imposition des taxes illégales qui asphyxient la population, les recrutements forcés de jeunes.
Actualité internationale.
En France, les autorités sanitaires font état d'une hausse exceptionnelle de la mortalité pendant la récente vague de chaleur. Selon les données provisoires publiées par la Santé publique France, 5664 décès en excès ont été enregistrés entre le 17 juin et le 2 juillet, avec un pic observé entre le 25 et le 17 juin. Il s'agit de la surmortalité la plus importante constatée depuis la canicule historique de 2003. Les autorités précisent que le lien direct entre ces décès et le forte chaleur n'est pas encore établi avec certitude. Toutefois, l'augmentation de la mortalité concerne toutes les personnes âgées de 15 ans et avec un impact particulièrement marqué chez les personnes de 45 ans et plus.
L'invité.
Alain Kateta, chef de bureau de PNUD de Kananga, est notre invité. Il revient sur la formation des 60 officiers de police judiciaire du Kasaï central, dont 10 femmes organisées dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise avec l'appui financier et logistique du programme des Nations Unies pour le développement. Alain Kateta s'entretient avec André Katende Ngalamouloumé.
Maître Alain Kateta, bonjour. Le PNUD a appuyé la formation des 60 officiers des polices judiciaires du Kasaï central. Qu'est-ce qui motive cet appui?
Merci. C'est un appui qui est réalisé pour renforcer les capacités techniques de la police, améliorer les prestations des OPJ. C'est dans ce cadre que cet appui a été apporté pour améliorer la qualité des services de la police et rendre la police beaucoup plus professionnelle, renforcer ses capacités techniques.
Pourquoi avez-vous pensé à la formation de ces OPJ?
C'est parti d'un constat. On a constaté qu'il y a plusieurs officiers de police judiciaire qui ont beaucoup de difficultés dans la rédaction des procès-verbaux. Dans les enquêtes qui sont en train de mener, il y a beaucoup de difficultés. Et au-delà de ça, le nombre d'OPJ est très réduit. Il a fallu essayer de répondre à ces besoins-là, exprimés par l'autorité provinciale, le gouverneur, et aussi par les commissaires provinciaux. Ce sont les deux autorités étatiques qui ont introduit cette demande d'appui. Et au niveau national, nous l'avons examiné avec l'école de formation des polices et la commission de réforme de la police. On s'est mis d'accord pour que le PNUD apporte son appui à travers le programme conjoint d'appui à la réforme de la police. La formation a porté sur la rédaction des procès-verbaux, la direction des enquêtes, les violences basées sur les genres, les enquêtes financières et aussi tout ce qui a trait à la criminalité, la procédure pénale, les droits pénal général et les droits pénal spécial. Donc, plusieurs matières comme ça.
Qu'est-ce que vous attendez de ces OPJ formés?
Ce que nous attendons, c'est que cette formation ne soit pas une lettre morte, que cette formation ait un impact. Nous voulons constater dans leur pratique la mise en œuvre de toutes les recommandations d'ordre éthique, déontologique et le respect des délais pour éviter les arrestations arbitraires, les détentions à longue durée et toute autre tracasserie déplorée ou dénoncée par la population. Et nous voulons aussi espérer de ces OPJ qu'ils soient des fidèles ambassadeurs de consolidation aussi de la paix. Nous sommes dans une zone post-conflit. Le policier n'est pas là ou l'OPJ n'est pas là seulement pour sanctionner, mais aussi il y a lieu de jouer la médiation dans certains litiges qui n'ont rien à voir avec ce qui est pénal. Il y a moyen de jouer un rôle, la médiation est contribuée à la cohésion sociale dans la communauté.
60 OPJ, pensez-vous que c'est suffisant pour le Kasaï central?
Ça, ce n'est qu'un pas. Dans la mesure du possible, si les budgets et les moyens sont mobilisés à la fois par le gouvernement et d'autres partenaires techniques et financiers, dont le PNUD, nous n'allons pas hésiter puisque les demandes sont énormes. Les demandes sont énormes, il va falloir mobiliser les ressources et nous sommes disposés à le faire. Ici, on a pu quand même sur 200 personnes. La demande portait sur 200, mais nous avons pu travailler sur 60, 50 hommes et 10 femmes. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose.
Maître Alain Kateta, nous vous disons merci.
Merci.
Fin de cet entretien avec Alain Kateta, chef des bureaux du programme des Nations Unies pour le développement à Kananga. Il répondait aux questions d'André Katende Galamouloumé. C'est ici que prend fin cette grande édition de 18h. Christian Makassing était à la présentation sous la coordination de Richard Junior Kamunga avec Jean-Claude Tiala à la mise en onde. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Retrouvez ces journaux en podcast sur www.radiokapi.net ainsi que sur nos différentes plateformes numériques. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletins d'information de ce mercredi.